On a clairement un passionné qui est arrivé parmi nous. N'est-ce pas, Mathias Turcotte?
Oh yeah!
Bienvenue à l'émission On en jase sur les ondes de Boulevard 102.1. Ton émission du midi, de midi à 14h, du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi, c'est le caucus Iacarini à cette heure-là. De midi à midi 30. Mais le vendredi, notre chère Antonine, qu'on adore, est en congé.
Bien mérité.
Bien mérité. Elle est ailleurs. Si vous suivez RDI, chaque vendredi après-midi, elle est avec Gérald Filion sur les ondes de RDI pour analyser la politique aussi bien qu'elle le fait à Boulevard. Quoique je la trouve bien meilleure à Boulevard qu'à Radio-Canada. Non, c'est pas vrai. Mais là, quand je dis qu'on a un passionné dans la salle, c'est parce que Farnell Morissette est avec nous. Farnell, comment vas-tu?
Je vais très bien. Comment ça va?
Ça va super bien. Farnell qui rentre, qui dit « Maud Tadine, j'arrête pas, moi, de faire des n'importe... »
T'es gentil d'avoir censuré mes vrais mots,
des
j'apprécie.
Séances, je fais des séances de constitution... un peu partout à travers la province en leur disant « Ça s'en vient, la constitution, ça s'en vient. Regardez, c'est quoi une constitution? » Puis là, tout le monde est surpris que Simon-Jolin Barrette dise « Hey! » J'amène ça, moi, la Constitution au Québec. Fait que ça n'a pas d'allure, mon Farnell. T'es fâché, là?
Ben, je suis pas fâché. Je suis juste, tu sais, je comprends qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'actualité, mais moi, j'ai comme l'impression d'être celui qui sonne l'alarme depuis des mois, qui dit, tu sais, prêtez attention à ça parce que ça s'en vient. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, puis il faut pas les laisser faire n'importe quoi.
C'est ça.
Puis là, on se réveille hier matin, puis bon, ben, clairement, j'en ai pas fait assez.
Mais non, t'as clairement, Clyde. Une mauvaise note au bulletin de
Farnell. Non, mais je le dis sans égo, là. Je veux dire, je prétends pas avoir la portée de à moi tout seul changer de ce qu'on parle. Mais c'est juste, tu sais, des fois, c'est frustrant de réaliser qu'on peut passer autant de temps, autant d'énergie, puis c'est comme une goutte d'eau dans l'océan.
Et là, on a Lambert Drainville qui est avec nous par Zoom parce qu'on se fait un petit one-two-punch pour commencer l'émission. Lambert Drainville, comment ça va?
Ça va très bien, très content d'être avec vous autres et de retrouver mon cher ami Farnell.
Ben c'est toujours le fun.
Et là, moi, j'aime bien raconter les coulisses de la radio. Lambert m'appelle hier vers 4h45, alors que mon ado venait de m'appeler pour me dire « Hey, Pat, je m'en vais travailler, mais j'ai oublié mon gilet du IGA chez vous dans le panier à lavage. » Fait que là, j'étais en train d'aller chercher le gilet du IGA pour mon fils avant d'aller souper avec ma blonde. Et Lambert m'appelle et me dit « Je viens de parler pendant une demi-heure de constitution avec Farnell. » Fait que là, je m'imaginais déjà la conversation. Je me disais, deux crackpots de politique, non même deux vulgarisateurs, j'aurais voulu entendre cette conversation-là. Et là, Lambert m'a dit, ben, tu vas l'entendre, on va le faire ensemble à ton show demain midi. J'ai dit, ben, let's go, on fait ça.
J'apprécie que tu aies accepté qu'on te dise ça va être quoi ton show aujourd'hui.
Moi, je suis toujours ouvert aux bonnes idées, c'est une excellente idée. Fait que merci, Lambert Drainville, ton appel.
Ben écoute, c'est un grand plaisir. On devait se parler à 13h, fait qu'on va faire ça une heure plus tôt, puis on va faire ça en quatuor. Ça va être encore mieux, ça va brasser encore plus la soupe à idées.
Exactement. Avant, Mathias, il y a de la circulation, et je veux que tu nous rappelles la grosse nouvelle politique à Québec. Il y aura, somme toute, rencontre entre Respect citoyen et Leadership Québec pour une fusion des deux partis dans le but d'aller battre Bruno Marchand et son projet de tramway.
Oui, tout d'abord, je commence avec la circulation. Présentement, sur Henri IV, direction nord, à hauteur de rue Einstein, il y a un accident, voie de gauche présentement bloquée, ce qui cause un ralentissement. Là, on parle Henri IV, ça remonte un peu plus loin, là, un peu plus loin que Charest présentement. En parlant de Charest, en arrivant par Henri IV, vous rencontrez un ralentissement qui va jusqu'à Robert Bourassa en direction est, capitale direction est également. Ralentissement à prévoir lorsque vous arrivez d'Henri IV, ça va à hauteur jusqu'à hauteur de Robert Bourassa également. Capitale direction ouest à hauteur de Laurentienne, ralentissement à prévoir aussi. Et le gros ralentissement présentement, c'est sur la 20 en direction ouest, c'est entre Président Kennedy et Taniata présentement. Si vous avez des informations, 418-971-1021. Jeff, tu l'as dit, oui. Stéphane Lachance, ça a été un peu surprenant ce matin. Ça a été appris tout d'abord dans le Soleil qu'il y avait des rumeurs comme quoi les deux partis pourraient avoir des discussions pour une future collaboration. Bien, ça a été confirmé par Stéphane Lachance auprès du Journal de Québec qu'il va... essayer de planifier une rencontre avec Leadership Québec pour déposer une offre dans laquelle, selon lui, tout le monde y trouve son compte, même tous les candidats des deux équipes. J'ai du mal à voir comment c'est possible une offre de possible collaboration où tout le monde en trouve son compte, mais c'est ce qu'il dit. Le but, ce serait d'unir les deux forces anti-tramway présentement principales à Québec. Et du côté de l'équipe Samamad, présentement, on dit que le canal de communication a toujours été ouvert.
Stéphane Stéphane Lachance qui va être avec nous aux alentours de 13h en studio du côté de l'équipe Samamad. Tu l'as très bien dit, de mes sources sûres. On va écouter la proposition de Stéphane Lachance du côté de l'équipe de Samamad. Ça tombe bien, on a un juriste en onde avec nous, Farnell Morisset. Farnell, ça se fait-tu réunir deux partis politiques qui se sont inscrits auprès du directeur général des élections en pleine campagne électorale?
Il y a pas vraiment d'obstacle légal à ça. Je veux dire, les partis politiques sont plus des espèces de convenances électorales qu'autre chose. Jusqu'au jour du vote lui-même, les gens peuvent se désister s'ils veulent. Alors, on s'imagine que s'il y a une espèce d'entente privée entre les deux partis pour se diviser les circonscriptions électorales, les gens peuvent se désister de la course, mm-hmm. Ceux qui n'ont pas été les élus choisis, les heureux choisis pour rester candidats. Après ça, une fois que les gens sont élus, les élus ont le droit de s'organiser comme ils veulent dans les partis politiques, les regroupements politiques qu'ils veulent à la mairie. Alors, c'est vraiment plus un enjeu politique qu'un enjeu légal.
Parfait. Lambert, toi qui es un ex-stratège politique, tu as travaillé en politique, t'accepterais-tu ça si tu es un candidat, par exemple, dans Beauport? De te faire dire « Ouais, c'est-tu quoi? Ça sera plus toi, ça va être l'autre parce qu'on fusionne ensemble? »
Ben, c'est ça le défi qui vient avec ça. C'est une bonne idée, disons, en principe présentement, surtout considérant que, selon les derniers chiffres, Bruno Marchand a accentué son avance sur les deux chefs de parti qui le suivent. Donc, sur papier, ça peut être une bonne idée de dire, ben, écoutez, on va additionner nos intentions de vote puis espérer dépasser Marchand au fil d'arrivée. Mais c'est ça, dans la pratique, après ça, il faut que tu t'entendes avec les gens qui ont accepté de faire campagne sous ta bannière, qui ont accepté de représenter tes couleurs. Et moi, j'ai tendance à penser que dans certains cas, ça se peut là, qu'il y ait certains de ces candidats-là qui ne le prennent pas comme une lettre à la poste, puis qui disent « Écoute, mon cher, moi, non, ça ne me tente pas. » Puis là, ben, c'est de la gestion humaine, comme c'est souvent le cas en politique. Et donc, c'est une bonne idée en principe, mais une fois qu'il faut que tu l'appliques, ça peut se compliquer. Et ça en dit long, par contre, sur disons, l'état d'esprit dans le parti de M. Lachance et le parti de Samamad sur leur chance de revenir dans cette course-là d'ici le 2 novembre.
Oui, mais c'est ça. En même temps, chacun en tant que chef, autant Stéphane Lachance que Samamad, tu t'avoues vaincu. Puis là, t'en mets un comme chef, mais les deux chefs, en bout de ligne, s'avouent vaincus avant le résultat du vote.
Bien, clairement, s'ils vont de l'avant avec une stratégie de la sorte, c'est qu'ils pensent pas qu'ils peuvent l'emporter en solo. Quand t'additionnes leurs intentions de vote, Bruno Marchand était à 29, Stéphane Lachance était à
13, Samamad 18. Fait qu'ils sont 2% en avant de Bruno Marchand.
Je pense pas que le calcul est aussi simple que ça, par exemple.
Exact. Ça, c'est l'autre affaire. Là. Vas-y, Fernand.
C'est un peu comme dire si on additionne tous les appuis de Québec solidaire puis tous les appuis du PQ, ça forme un gouvernement hyper majoritaire. Je pense pas que tous les électeurs de Québec solidaire seraient prêts à se joindre au PQ, tout comme l'inverse. Je pense qu'on peut voir un peu la même chose au niveau municipal. Je pense pas que tous les électeurs de Leadership Québec vont être prêts à accepter une fusion du genre, tout comme de respect citoyen. Je veux dire,
ben, c'est pas aussi simple que ça. C'était exactement ce que je pensais, parce qu'il y en a dans Leadership Québec qui est viscéralement Stéphane Lachance. Mmh. Donc, si Stéphane Lachance devient chef de ce regroupement-là, t'es père. Il y en a dans Respect citoyen qui est viscéralement Samamad. Fait que l'inverse est le même. Ouais. Si tu mets Samamad, tu les perds. Puis ça, c'est des franges de 4, 5, 6, 7, peut-être 8 % là, de l'électorat de chacun. 418-971-1021, puis là, je vais prendre l'exemple de Christian qui dit, est-ce qu'on va l'appeler respect leadership ou leadership citoyen? Je voulais choisir. J'aime mieux leadership citoyen, mais 418-971-1021, voteriez-vous pour un regroupement entre respect citoyen et leadership Québec, peu importe qui est le chef? Donc, 418-971-1021, on fait un petit sondage maison. Je rappelle qu'on reçoit Stéphane Lachance à 13h.
Mais c'est surtout qui serait le chef, justement, là, parce que du côté de Samamad, ça m'étonnerait bien gros qu'on voudrait se retirer. Du côté de Stéphane Lachance, ça m'étonnerait bien gros aussi qu'on voudrait se retirer. Mm-hmm. Mais dans un cas de coalition, dans un cas de regroupement entre les deux partis, il faudrait qu'il y en ait un des deux qui laisse sa place.
Alors, je dirais à moins qu'on arrive à une espèce de situation farfelue, d'espèce de co-mairie, mais je pense pas.
Mais ça se pourrait-tu, une co-mairie?
Non, il faut qu'il y ait un maire, mais je veux dire, il pourrait arriver à une situation genre une personne va formellement porter le titre, mais il va avoir une entente privée entre les deux pour se partager des pouvoirs, je sais pas. Là je fantabule, là. Je pense pas que ça va être ça.
Et puis Jeff, ça serait quoi le jingle? Qu'est-ce qu'on fait avec le jingle?
Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait avec le jingle de Leadership Québec?
Là, tabarouette, moi, je l'écoute à tous les jours pour me mettre de bonne humeur.
Ça
Leadership Québec, l'étoile renaît.
Ça
l'a. Projet audacieux pour un avenir radieux.
Aucun sens. Présentement, là, je fais un calcul rapide et continuer à envahir le 418-971-101. Je te dirais que 80% des gens, peu importe que ce soit Ahmad ou Lachance, ils disent « Je vais voter pour le regroupement. »
Ben non, ça veut dire que c'est 20% que non.
Mais c'est 20% que non.
C'est 20% que non, ça, c'est pas assez pour surpasser Bruno Marchand présentement.
Exactement. Donc, à voir. Ouais, c'est ça. Vraiment, Bruno Marchand, avec son idée de tramway chez nos auditeurs, il est pas très populaire. C'est ainsi. Bon, jason constitution, mes amis, parce que Simon Jolin Barrette a déposé son projet de constitution. Puis en passant, il revient, là, je vous le dis, Stéphane Lachance à 13h avec nous, a déposé son projet de constitution hier. Bon, ça fait pas l'affaire des oppositions. Marois Risquier a dit, ben on est pour une constitution Parti libéral, mais une constitution où... on va en jaser, ça va faire consensus, on va parler au peuple, on va parler entre les différents partis, ça sera pas un dossier partisan. Et du côté de Pascal Paradis, autant l'Assemblée nationale hier qu'en ondes ce matin avec nous, a dit « la Constitution va venir avec le pays ». Farnell, je te cède la parole. Qu'est-ce que tu penses du projet de Simon Jolin Barrette et de la CAQ?
Ben, je veux dire... te souviens-tu, toi, en 2022, avoir écouté un débat sur est-ce qu'on fait une Constitution ou pas?
Lors de la campagne électorale, ouais. Non, on avait plus débattu de troisième lien.
Te souviens-tu, est-ce que c'était dans le programme électoral de la CAQ de faire une refonte fondamentale du contrat social québécois dans la Constitution?
Mais je te dirais que non. Puis Lambert, t'étais, toi, justement, à l'intérieur des murs de la CAQ. Hein? On en parlait-tu à l'intérieur des murs de la CAQ?
Ben là, il peut pas le dire, là, quand même. Tu peux pas lui demander ça, là.
Ah, c'est tellement chiant de commenter ça de même.
J'avoue, je m'excuse.
Non, sérieusement. Oui, c'est ça. Je tiens à dire que je suis désormais... j'ai quitté depuis un bon moment. Je suis désormais le plus impartial du monde. Mais non, on en parlait pas à ce moment-là.
Non, mais pour moi, ce qui m'écœure avec ça, c'est que même si quelqu'un lit le projet de loi, je l'ai lu au complet. Bon, j'ai pris le temps hier, je l'ai lu de A à Z, le projet de loi. Il y a bien des choses là-dedans qui font bien du sens. Okay? Ouais. Je ne veux pas donner l'impression que je suis
en
train de...
Non, en effet.
Énormément de choses là-dedans qui ont bien du sens. Il y a des choses là-dedans qui sont des gros, gros, gros problèmes. Des problèmes qu'on aurait peut-être pu régler s'il y avait eu des consultations, des discussions au préalable. Mais même si c'était une constitution que tout le monde était d'accord pour dire « Ouais, ça, c'est excellent. » Est-ce que ça justifie qu'un gouvernement actuellement nous l'impose le fondement du contrat social, des relations de pouvoir au Québec, sans nous consulter? Je veux dire, c'est un gouvernement qui, présentement, tout indique qu'il serait rayé de la carte électorale si l'élection avait lieu demain matin. Un des gouvernements les moins populaires de l'histoire récente du Québec, qui n'a pas un mandat électoral pour faire ça, on n'a pas voté pour ça, c'était pas dans leur plateforme, qui va nous le sortir de son chapeau, qui annonce déjà la date que le projet de loi va être adopté, alors je veux dire, pour eux, c'est un fait accompli, sans nous consulter. Je veux dire, c'est une approche qui, même si on est d'accord avec le projet de loi, l'approche est hautement autoritaire. C'est une approche qui dit... tout ce qu'il faut pour changer le contrat social fondamental du Québec, c'est 63 personnes à l'Assemblée nationale qui sont d'accord avec moi, et c'est tout. Mm-hmm. Puis vous, le peuple, là, ben, vous avez juste... vous, le peuple, ouais. La démocratie, c'est aller voter une fois de 4 ans, puis après ça, ben, taisez-vous, c'est plus votre problème. Moi, c'est pas comme ça que je la vis, ma démocratie. C'est pas comme ça que je la veux, ma démocratie au Québec.
Ouais. Lambert, comment tu vois ça? Parce que moi, je me dis, la Constitution, faut que ça fasse consensus un peu, puis là, je vais dans mes souvenirs, comme quand Véronique Yvon au PQ a piloté le dossier de l'aide médicale à mourir.
Oui, absolument. Écoute, il y a beaucoup des éléments que Farnell a soulevés qui me dérangent moi aussi, sur lesquels je me pose des questions. La vérité, par contre, c'est que pour me faire l'avocat du diable, on vit dans un système démocratique où on va voter aux 4 ans. Et lorsqu'on vote, comme on l'a fait, je veux dire, rappelez-vous, messieurs, le 2022, la CAQ rentre avec un score qui est historique en termes d'élus, en termes de pourcentage de vote, une grosse marque de confiance des Québécois envers eux. Ça a effectivement beaucoup changé, mais le système dans lequel on fonctionne, le système qui est le nôtre, qui est tellement imparfait, je suis d'accord avec toi, Farnell, permet ce genre de choses-là. Je pense que la réflexion du côté du gouvernement, parce que comme Farnell, j'ai lu évidemment le projet de loi, et je pense que dans ça, il y a beaucoup, effectivement, de bonnes choses. Et je pense que si tu avais à demander aux Québécois de se prononcer sur son contenu, il y aurait un fort appui populaire. Et la réflexion de leur côté, je pense que c'est de dire, écoutez, là, c'est un élément dont on parle depuis plus de 60 ans. Le PQ, le Parti libéral, les gouvernements qui se sont enchaînés ont eu des discussions, des propositions, ont débattu de ce genre de projet de loi-là, puis ça n'a jamais abouti. Et eux autres se sont dit, bien, écoutez, on va le faire, c'est nous qui sommes au pouvoir. Je pense que le premier ministre, bien honnêtement, de ce que j'entends, il est convaincu que c'est la bonne chose à faire présentement pour le Québec.
Oui, parce que j'allais te poser la question, est-ce que c'est la bonne chose à faire pour son parti politique ou pour le Québec? Parce que moi, de l'extérieur, je le vois très partisan. Là. Je le vois très, hey, la CAQ, on est dans le trouble d'un sondage. On va alors jouer le plus possible sur l'identité puis le nationalisme pour remonter.
Oui, bien, c'est sûr que c'est difficile de ne pas voir ça d'un œil stratégique. Mais parallèlement à ça, je suis convaincu que le premier ministre s'est dit, écoutez, peut-être effectivement que c'est ma dernière année en politique et peut-être que présentement, c'est pas ça qui anime les passions et peut-être que la manière suscite des questions. Mais au fond de lui, je suis sûr qu'il se dit, on va le faire. On va être le premier parti à finalement aller de l'avant avec ça. On va mettre en place un processus pour modifier ce document-là qui est quand même flexible. Et donc, si ça veut être modifié par les partis qui sont pas d'accord avec disons, ou le total ou certains détails qu'il y a dans ça, pourront le modifier si jamais c'est eux qui rentrent au gouvernement. Mais on va avoir notre loi des lois, on va avoir notre document. Et dans 10, 15, 20 ans, quand les gens vont penser au legs de François Legault, au legs de la CAQ, eh bien, cette constitution-là en fera partie. Et rappelons-nous, tu m'as donné l'exemple de l'aide médicale à mourir. La loi 101, là, tu sais, qui est une loi hyper consensuelle, là, présentement au Québec, personne la remet en question. À l'époque, c'est juste le Parti québécois qui était en faveur de cette loi-là. Le Parti libéral puis l'Union nationale disaient que c'était quelque chose qui était borderline autoritaire, qui remettait en question les droits des minorités anglophones. Et au fil des années, bien, c'est quelque chose qui est devenu consensuel, qui est devenu un socle sur lequel s'est bâti le Québec d'aujourd'hui et la langue française s'est développée. Fait que de leur perspective, je pense qu'ils voient ça comme ça, mais une chose est sûre, comme le dit Farnell, ils veulent adopter ça avant l'élection.
Farnell, qu'est-ce que tu en penses, toi, du côté de la CAQ? Est-ce que c'est partisan? Ou est-ce que, comme Lambert l'a dit, puis je trouve ça tellement intéressant de la façon que Lambert l'amène, ça va dans le temps se matérialiser pour que tous les partis politiques, tout horizon, y adhèrent?
Ben, je veux dire, tout est possible. Est-ce que dans 30 ans, dans 40 ans, on va regarder ça comme étant finalement une bonne chose? Je veux dire, je sais pas. On a eu bien des faux pas constitutionnels dans le passé aussi. Mais moi, ce qui me marque, puis tu sais, je le disais en rentrant, parce que oui, je suis un peu craqué par ça, parce que je l'avais fait la prédiction en juin que ce projet de loi-là allait sortir, et j'avais fait la prédiction que ça allait être un projet de loi très électoral. Présentement, les items qui sont contentieux dans le projet de loi, c'est des items qui sont très à la couleur des ambitions, des idéologies, puis là, j'utilise pas le terme idéologie de façon négative, là, au terme philosophique, de la CAQ. C'est pas un projet de loi qui va faire baisser les prix des maisons. C'est pas un projet de loi qui va engager des profs. C'est pas un projet de loi qui va régler les problèmes réels actuels.
T'as exactement le discours de Marois Risky hier. On n'a pas réglé rien en 100 ans, on n'a pas réglé rien en éducation. Il y a encore des problèmes de logement, donc pourquoi on s'attaque à la Constitution?
Ouais, tu sais, c'est pas un projet de loi qui va régler les choses pour les 2-3 prochaines années, mais c'est un projet de loi qui va avoir potentiellement un gros impact pour les 2-3 prochaines générations. Puis ça revient un peu à mon questionnement, à savoir, est-ce que c'est 63 personnes qui peuvent décider ça par eux-mêmes? Mais si on parle de façon stratégique, mettons, là,
ouais.
OK? Je vois très bien ça comme étant, de un, c'est un projet de loi qui est hautement symbolique. Alors, c'est un projet de loi qui va attirer beaucoup d'attention parce que ça fait vibrer beaucoup de fibres émotionnel chez les gens.
Comme la charte des valeurs. Comme de la charte Bernard des valeurs.
Si j'étais un gouvernement qui était à son plus bas, qui était sur le bord statistiquement de se faire rayer de la carte électorale, je voudrais une distraction. Je voudrais pas qu'on parle de mon bilan, puis ça fait très bien l'affaire. Puis là, encore une fois, je vais spéculer. Ok, je fais une spéculation. Je suis pas en train de dire que ça va nécessairement être ça, mais je regarde les cartes, je me dis ça pourrait peut-être bien être ça, que on va lancer ce projet de loi là. Projet de loi qui a été fait de façon sans consultation, peut-être pour justement soulever l'indignation des partis d'opposition. Alors après ça, François Legault, d'ici quelques mois, va pouvoir dire « Hey, je pensais que ce serait un projet consensuel, que tous les partis allaient regarder ça, dire « Voyons donc, on veut une constitution depuis tellement longtemps. » Mais clairement, les autres partis politiques ne sont pas prêts à travailler pour l'avenir du Québec. Alors, il va absolument falloir qu'on aille chercher un mandat populaire pour cette constitution-là.
OK, attends une minute. Élection référendaire sur la Constitution?
Moi, je me dis, c'est pas impossible. Et non seulement ça, après ça, c'était François Legault, tu te dis, et moi, en bon homme d'État, je réalise que je ne suis pas l'homme pour porter ce projet-là, parce que ce projet-là, malgré que je veux continuer à me battre, malgré que j'ai encore toute l'intention de représenter les Québécois...
Et que j'ai répété 150 millions de fois que j'allais être là en 2026.
En bon homme d'État que je suis, je réalise qu'il nous faut absolument l'architecte de ce projet de loi-là pour mener ce combat-là électoral. Alors, je cède ma place à Simon Jolin Barrette.
Et Simon Jolin Barrette devient chef de la CAQ. Est-ce que tu as déjà écrit des discours des premiers ministres?
J'ai jamais écrit de discours des premiers ministres.
Parce que c'était touchant.
Mais, tu sais, mettons que... Et parce qu'après ça, là, on tombe dans une élection. On n'est plus en train de faire une élection sur le bilan de la CAQ. On n'est plus en train de faire une élection où François Legault est dans les cartes. Simon Jolin Barrette a été très peu éclaboussé par quoi que ce soit des scandales de la CAQ. C'est un successeur. Je veux dire, regardez le langage corporel de François Legault quand il est autour de Simon Jolin Barrette, on le croirait parler à son dauphin. Je le vois peut-être venir, cette espèce de stratégie-là. Dire, ah, écoutez, on pensait faire un beau cadeau aux Québécois, puis les partis d'opposition ne veulent rien savoir, alors on va faire une campagne électorale référendaire.
Puis là, on peut frapper sur le PQ, référendum, ils veulent nous séparer, mais ils ne sont même pas assez nationalistes pour voter pour notre Constitution.
C'est ça. Puis là, on a complètement écarté de la discussion tout le bilan de la CAQ. On ne parle plus de François Legault, qui est impopulaire. On a maintenant un nouveau chef qui n'a pas été associé au scandale de la CAQ.
Est-ce qu'il y a un bon CV s'il y a de parler d'économie? Non, je fais des blagues là, avec moi. Lambert, t'en penses quoi de ce plan machiavélique-là de la CAQ?
Ben, d'un point de vue, disons, d'un stratège au bureau du premier ministre, ça serait une stratégie qui, je pense, leur permettrait de se donner la plus grande des chances. Parce qu'avec Simon Jolin Barrette, tu as vraiment un vent de renouveau très, très grand par rapport à François Legault. Il est jeune, il est compétent, il n'a pas été entaché, comme disait Farnell, par les différents scandales. Alors, c'est sûr que d'un point de vue de se donner les meilleures chances pour se faire réélire, c'est pas une stratégie qui serait mauvaise. Maintenant, comme je disais plus tôt, moi, je vous le dis, là, de ce que j'entends, ils veulent absolument passer ça avant l'élection. Et... Donc, s'ils passaient avant l'élection, ça pourrait pas être au niveau... Ils pourraient pas avoir... Puis bien, franchement, même si Simon Jolin Barrette arrivait, même si ça devenait une élection référendaire sur le projet de Constitution, est-ce que vous pensez vraiment là, que l'élément constitutionnel, ça parle assez au monde dans l'optique où la CAQ est au bas des sondages pour renverser assez la tendance pour se donner une chance de vraiment l'emporter. Présentement, ils sont... Puis l'emporter de façon majoritaire. Présentement, ils le sont majoritaires. Alors moi, je ne dis pas que c'est une idée qui est complètement impossible. Je pense que c'est certainement quelque chose qui n'a jamais été vraiment discuté. Là, tu sais, je pense qu'il ne faut pas partir de manigance. Ce n'est pas quelque chose qui a été avancé en coulisses. Mais est-ce que ça pourrait devenir une possibilité? Peut-être, mais comme je vous dis, moi, j'en démarre pas. Là, ce projet de loi-là va être adopté avant l'élection. Puis, tu sais, ce qui n'empêche pas quand même de rentrer dans l'élection en disant, ben vous rappelez-vous la Constitution, là, ben, le Parti québécois qui se prétend tellement indépendantiste, nationaliste, n'a même pas voté pour, tu sais, dépendamment. Puis, d'ailleurs, c'est ça, stratégiquement, ouais. c'est quand même un geste assez brillant là, au niveau de comment ça ça met les partis de l'opposition dans un dilemme qui est très, très difficile parce que là, ils se prononcent sur la manière dont ça a été fait.
Il y a juste Ruba Gazal hier qui a fait une sortie complètement contre, mais bon, Ruba Gazal nous a dit aussi que l'heure était grave cette semaine.
Oui, exact. Puis, tu sais, là, ils vont être devant un dilemme, justement. Là, présentement, ils se prononcent sur « il n'y a pas assez de consultation », fait qu'ils se prononcent vraiment sur la forme. Mais la prochaine question qui va venir, messieurs, ça va être sur le fond. PQ, Parti libéral, Québec solidaire, est-ce que vous êtes pour ce qu'il y a dans cette constitution-là? Et comme je vous l'ai dit tantôt, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui sont très, très consensuels au Québec. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre ça?
Puis là, être contre, ben, c'est être contre plusieurs valeurs qu'on veut au Québec.
Ouais, tu sais, donc, je pense que le jeu, ça va être, est-ce qu'on est capable de dissocier les différents éléments? Parce que je pense que dans le projet de loi actuel, il y a un 80% qui fera aucunement controverse à qui que ce soit, mais l'autre 20%...
Quoi le 20% qui fait controverse, selon toi?
Ben, on parle, entre autres, de c'est une constitution qui semble conçue pour aller vers des chicanes avec le fédéral.
Ouais.
Les projets de loi vont jusqu'à la limite du gris du pouvoir, des compétences du Québec à l'intérieur du fédéralisme propose carrément des choses pour lesquelles il faudrait l'aval du Canada. T'sais, le projet de loi veut, par exemple, que le premier ministre soit celui qui recommande qui va être le lieutenant-gouverneur. On renomme le lieutenant-gouverneur officier du Québec. Ça, c'est pas clair que le Québec a le droit de le faire sans l'aval d'Ottawa. On demande que les sénateurs soient nommés par le premier ministre au lieu qu'ils soient nommés par le gouvernement du Canada. On demande que les juges de la Cour suprême, les trois sièges qui sont réservés pour des juristes québécois, soient nommés par le premier ministre. T'sais, on demande que le premier ministre ait énormément de pouvoir.
Ouais.
Beaucoup plus de pouvoir que ce qu'il y a présentement. Ottawa pourrait dire « OK, ouais, ça me semble raisonnable. On peut se jaser, on peut se négocier une espèce d'entente. Mais je veux dire, la façon de faire ça, c'est d'aller à une table de négociation. C'est pas de présenter un projet de loi puis après ça, se chicaner. »
Non, c'est ça. François Legault souffre un peu peut-être de Trumpisme, fait de l'autoritarisme?
Il veut... C'est une position qui se prépare à des bagarres plutôt qu'à des négociations.
Hey, je termine là-dessus, messieurs, parce que je veux vous entendre. Est-ce que le PQ a fait quelques erreurs cette semaine? Il y a notamment Paul Saint-Pierre Plamondon qui s'est chicané avec Yasmine Abdel-Fadel, la chroniqueuse pour le réseau Québécois. Et hier, il était absent de l'Assemblée nationale parce qu'il avait à son agenda une conférence, un discours dans une université. Est-ce qu'il aurait dû annuler sa conférence puis dire hey, écoute, là, on jase de constitution, c'est important, puis être à l'Assemblée nationale? Lambert, je te cède la parole en premier.
Ouais, ben on a vu un changement de ton, hein, déjà. Ceux qui ont suivi la semaine, là, avant que le projet de loi soit déposé mardi, il était viscéral. Il disait que c'était une bébelle, que c'était une patente à gosse, que ça servait à rien dans le contexte du fédéralisme canadien. Et là, on a vu vraiment hier, quand il était à Chicoutimi, en Scrum, que c'était beaucoup plus dans l'optique de « Ah, vraiment, là, les consultations, il faut que ce soit les gens qui déterminent ce qu'il y a dans ça. » Fait qu'il a déjà baissé le ton parce que effectivement, quand je parlais de mettre les autres partis dans une position inconfortable, le premier étant le Parti québécois, qui est le grand défenseur des valeurs québécoises, qui dit pouvoir, péter plus haut que le trou.
Ça permet l'expression.
Par rapport à la CAQ pour la défense des intérêts des Québécois. Et là, ben honnêtement, il se pogne avec Yasmine Abdel-Fadel. Il est très, très viscéral avant même d'avoir lu le document. Moi, comme je t'ai dit cette semaine, c'est le prétendant au titre. C'est possiblement celui qui va commencer comme le futur premier ministre en attente lors de la prochaine campagne électorale. Il va falloir qu'il apprenne à s'élever, à être en hauteur et à choisir ses combats. Il ne peut pas commencer à se chicaner avec n'importe quel chroniqueur à chaque fois qu'il est critiqué dans les médias en répondant à un texte de 2 pages sur Twitter, parce que quand il va être le prétendant, ou encore pire, si un jour il devient premier ministre, il va en avoir à tous les jours de ce genre d'attaque-là.
Clairement. Farnell, t'en penses quoi? Est-ce que le PQ a une mauvaise semaine?
Je Écoute, je veux pas donner des conseils à M. Plamondon. Ouais. Il est très bien conseillé, j'en doute pas. Mais je vais parler de moi.
Oui.
Ça, parce que moi, ça m'arrive souvent, je vais enregistrer ou je vais écrire sous la passion, mais j'ai toujours l'habitude de réviser dans le calme. Puis c'est très bien d'écrire, de produire, de créer quand on est sous le coup de l'émotion de la passion, parce que souvent, ça ressort mieux. Mais il faut se réviser dans le calme par la suite. Et j'ai l'impression que ça, c'est peut-être un élément qui manque dans plusieurs des publications récentes de M. Plamondon. Des genres de choses que s'il s'était donné un 24 heures ou même un 12 heures, il aurait peut-être modéré certains propos. T'sais. Je comprends, je pense que c'est parfaitement légitime de la part d'un chef de parti de dire « je pouvais pas être là parce que j'avais déjà quelque chose à mon agenda ». Parfaitement légitime, absolument, je suis d'accord avec lui. Mais on voyait aussi qu'il y avait comme une espèce d'élément de « ben là, le premier ministre aurait dû nous le dire que ça s'en venait, puis je veux dire, moi, j'ai pas à soudainement changer mon horaire parce que le premier ministre a déposé un projet de loi.
Ouais, »
Non, c'est ta job de changer ton horaire quand le premier ministre dépose un projet de loi.
Ben, c'est ça, tu sais.
Attends, là. Hey, à l'interne, là, tout le monde le savait.
C'est
là.
Ça, ben, on peut pas être surpris.
Depuis lundi que c'était déposé jeudi. Là. Puis là, lui, il parlait comme s'il fallait que le bureau du premier ministre là, fasse un doodle puis qu'il envoie ça aux autres partis. Pour
c'est ça, tu sais, non. Son tout premier rôle en tant que député, c'est d'être là pour voter quand il y a des votes à avoir. Je veux dire, encore une fois, il a le loisir de décider qu'il a d'autres façons de remplir ses fonctions et bien à lui, c'est parfaitement légitime. Mais c'est pas comme si on le devait consulter avec son horaire puis son agenda quand le gouvernement va déposer des projets de loi.
Moi, j'ai l'impression que cette sortie-là, c'était un peu stratégique. Pas en vue nécessairement de l'élection générale qui s'en vient, mais en vue de la partielle. De dire, on m'a pas annoncé pour le projet, mais je m'en vais au Saguenay, ou qu'il va avoir une partielle prochainement, de dire, j'ai un engagement au Saguenay, puis vous savez quoi, des Saguenayens? Vous êtes trop importants pour que je reste à l'Assemblée nationale. J'ai pris un engagement avec vous autres. Je viens quand même vous voir. Et ça, même si le premier ministre dépose un projet de loi dans mon dos en ailleurs présentement à l'Assemblée nationale. J'ai comme l'impression que c'était peut-être un peu plus ça du côté de la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon.
Rapidement, vous en pensez quoi, les gars?
Ouais, je suis d'accord. Puis encore une fois, comme je disais, c'est parfaitement légitime pour lui de décider que son mandat de représentation l'appelle au Saguenay plutôt qu'à l'Assemblée nationale. Parfait. Mais c'est la deuxième partie du message où il insinuait qu'il avait le droit d'être consulté dans l'horaire, que là, je décroche un peu.
Lambert, mot de conclusion?
Ben, tu sais...
On envoie un doodle?
Mathias a raison. Ouais. Non, mais il était là, il disait pour une conférence dans une école, j'en conviens, mais ils sont surtout là pour faire du démarchage. Ils n'ont pas encore de candidat dans Chicoutimi. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des rencontres avec... de possibles candidats, trouver la meilleure candidature parce que c'est pratiquement déjà gagné d'avance pour eux là-bas. Et donc, qui va être la meilleure personne pour être leur septième, possiblement, député? Rappelons-nous qu'ils avaient commencé l'élection avec trois députés. Donc, on va être à plus que le double que ce qu'ils avaient remporté en 2022.
Alors, clairement, le PQ a le vent dans les voiles, mais ça va prendre des meilleures semaines de Paul Saint-Pierre Plamondon. Messieurs, je pense qu'on va refaire ça le vendredi. Hein? C'était le fun?
Ben, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Là.
Vous avez aimé ça? Moi, j'ai les deux meilleurs vulgarisateurs politiques avec moi le vendredi, fait que je dirais pas non. Lambert Drainville, merci beaucoup. On t'envoie la vidéo pour que tu fasses suivre ça sur tes médias sociaux. Farnell, on fait la même chose.
Merci.
Fait que c'est le fun. On fait rayonner Boulevard un peu partout grâce à vous. On vous adore. Et avant de passer à la pause et à une entrevue avec Serge Bonin, chef de Repensons Lévis, candidat à la mairie de Lévis. On va aller faire un petit tour à Lévis pour venir à Québec à une heure avec Stéphane Lachance et cette possibilité de fusion avec Leadership Québec. Mathias, il y a de la circulation.
Oui, présentement, Henri IV direction sud pour l'entrée sur le pont Pierre-Laporte. Ça remonte jusqu'à 4 Bourgeois de ralentissement présentement, puis ça va s'empirer de minute en minute. C'est le trafic du vendredi qui commence plus tôt. Présentement, sur Charest, ralentissement entre Henri IV en direction est et Robert Bourassa. Le gros ralentissement qui a présentement lieu, c'est sur Capitale direction est. On parle à partir d'Henri IV, puis ça remonte présentement jusqu'à Pierre-Bertrand. Gros ralentissement présentement, puis ça crée un ralentissement sur Robert Bourassa en direction nord également, là, lorsque vous voulez prendre Henri IV. Lorsque vous voulez prendre Capitale, excusez-moi. Capitale direction ouest vers à hauteur de Laurentienne, ralentissement également. Et la 20, direction ouest, entre Président Kennedy et Taniata, gros ralentissement. Si vous avez des informations, 88-971-1021.
Avec mes calculs scientifiques, vous êtes 85% des électeurs de Respect citoyen et Leadership Québec à dire « Peu importe que ça soit Stéphane Lachance ou Sam Hamad, je veux mettre dehors Bruno Marchand. » Vous êtes 15% qui disent « Non, 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 ça marchera pas de même. Moi, je veux voter pour Sam ou moi, je veux voter pour Stéphane Lachance. » Et là, je pars un autre sondage, 418-971-1021. Voulez-vous ça des duos Farnell Morissette, Lambert Drainville?
Moi, je peux-tu voter oui?
Ben oui, tu peux voter oui. Lambert, tu vas voter oui aussi? Puis moi aussi, oui. Je vote oui. Bon, moi aussi, je vote oui. Mais c'est les auditeurs qui décident ici à Boulevard. 418-971-1021, voulez-vous d'autres micros, débats avec nos deux vulgarisateurs
On fait plus
préférés.
De consultations publiques ici qu'à CAQ.
J'adore. Je termine là-dessus. Serge Bonin, candidat à la mairie de Lévis, chef de Repensons. Lévis, je suis à l'instant après cette courte pause. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 101.
On en jase jusqu'à 14h. On en jase. Boulevard 102.1 t'accompagne maintenant en semaine avec une programmation 100% parlée. 100% talk.
Ça parle de quoi?
De l'actu, du sport, des élections, du showbiz. Il se passe de quoi? Vous allez...